nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Donc aujourd'hui, nous avons les aveugles et les muets. Les aveugles et les muets. Et le Christ, on va le voir tout au long de cet entretien, de ce partage, de ce sermon, que le Christ, lui, va rendre la vue aux aveugles et va ouvrir le cœur à la vision du Christ. Mais méfiez-vous de ceux qui vous rendent muets, de ceux qui vous censurent, de ceux qui vous empêchent de parler, de ceux qui, au nom d'une autorité, vous avez vu là les pharisiens, qui disent c'est à cause du démon, etc., et qui vous empêchent de parler. Méfiez-vous de ceux qui vous aveuglent, ceux qui rendent Dieu idolâtre. Vous savez qu'on peut tomber aussi dans l'idolâtrie, c'est un danger, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ne bougent, ils ne parlent pas. Méfiez-vous de ceux qui mettent des poids trop lourds sur vos épaules, par exemple en baissant votre cœur, en essayant de trouver des vérités qui vous empêchent de vous exprimer, de bouger, ou en mettant des charges trop lourdes. Vous savez que le Christ là-dessus est très dur, en disant qu'ils disent, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils disent, mais ils ne font pas. Vous vous rappelez de tout ça. Donc, bien sûr, là je parle il y a 2000 ans, aujourd'hui ça serait impossible, parce que nous sommes au XXe siècle, et tous les orthodoxes ont un père spirituel qui, bien sûr, veille à ce qu'on ne tombe pas dans l'orgueil imaginaire, dans ces choses-là, et bien sûr, on a un confesseur qui restaure la paix dans le cœur et qui cicatrise les blessures qu'un monsieur a fait en vous humiliant. Donc, comment le Christ fait pour rendre la vue? Et on le reverra à la fin, retenez bien le mot, et il dit « ta foi t'a sauvé ». Jamais le Christ dit « je vous guéris ». C'est toujours « ta foi t'a sauvé ». C'est toujours « Dieu ne s'impose pas ». Dieu a besoin de notre fiat, il a besoin de notre consentement. C'est la différence entre Ève et Marie, la nouvelle Ève, qui a dit fiat, à l'impossible, bien sûr. On ne discute pas avec Dieu, c'est fiat. Mais il a besoin de consentement. Et le Christ, c'est le nouvel Adam qui, à Gethsémani, pleure des larmes de sang, et qui est le nouvel Adam qui, lui, a désobéi, et le Christ a obéi. Là aussi, à l'impossible, puisque c'est la croix. Donc il faut bien savoir que le Christ dit c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc il faut bien savoir qu'il condamne les docteurs de l'Église. Il les condamne avec sévérité. Quand une fois, je vous ai dit que la lettre était matrice du souffle de l'esprit, on devait consentir à l'accueillir, et le Christ est encore beaucoup plus loin que moi, puisqu'il ose dire « la lettre tue et l'esprit vivifie ». Elle ne dit pas que la lettre est morte, mais elle tue, elle donne la mort, que l'esprit vivifie. Alors qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit? Alors bien sûr, je ne peux pas empêcher de raconter une anecdote, peut-être certains connaissent, parce que je la raconte souvent. C'est un jour des philosophes, des érudits d'Occident qui viennent à Saint-Saba, va mon père spirituel, qui vient voir sa photo, est dans la chambre à côté là, de la chambre double. Donc, il est mort à 101 ans. Il m'a appris qu'une chose, c'est l'évidence de Dieu. De poser Dieu dans chacun de mes actes. Et chaque acte est habité par la présence. Sinon, il devient simplement humain et stérile et devient un spectacle. Et nous ne sommes pas des acteurs, nous sommes des religieux. Donc, ces philosophes viennent, ils posent une question terrible. Nous observons les traducteurs, bien sûr, Père Séraphim. Et il pose une question, qu'est-ce que l'esprit? Et le père Séraphim, qui est un vieux moine bien rusé, il est mort à 101 ans, vous pensez bien à la vie d'autre, il vit en Terre Sainte, il y a la guerre, dans le désert de Judée, l'endroit plus bas du monde. Et le père Séraphim répond avec humour, la feuille, le vent souffle, la feuille bouge. Au revoir, messieurs. Bien sûr, là, les pharisiens, les docteurs se sont révoltés en disant, mais c'est qui ce moine, pour qui il se prend? On a fait peut-être 3000 km pour le voir, et il nous raconte un truc. Qui a ni queue ni tête, etc. Moi, grâce à Dieu, c'est mon père spirituel, j'aime beaucoup le père Séraphim. Bien sûr, j'ai rien compris à son histoire, donc j'ai demandé pardon aux pèlerins, mais pendant quelques temps, et ça a duré un certain temps, j'ai médité sur cette phrase, le vent souffle, la feuille bouge. Et je lui ai proposé au père Séraphim une interprétation. Il a dit oui. Mais attention, j'en aurais dit une autre, il aurait dit oui aussi. Ça veut dire que la mienne est vraie. Ça veut dire que j'en ai soumis une qui lui convenait et il l'a béni. Donc, j'ose la dire. Le vent souffle, la feuille bouge. Si je n'ai pas de feuille, je ne vois pas le vent. Si j'étudie la feuille, je ne comprendrai jamais le vent. Donc j'ai besoin d'une matrice. J'ai besoin de quelque chose qui va s'incarner pour rendre visible l'invisible. Mais ce n'est pas le visible qui va m'expliquer l'invisible. Dieu est au-delà de tout. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Donc j'ai besoin d'une feuille pour rendre visible l'invisible. Mais ce n'est pas le visible qui va m'expliquer l'invisible. Et là, je peux m'empêcher maintenant de citer le loir Palamas, parce que le père Séraphim a parlé à des philosophes, non des humains, des intellectuels. Mais là, le loir Palamas parle à des moines. On ne parle pas de la même façon à des moines. Donc, père Séraphim a parlé de l'esprit à la matière, alors que saint loir Palamas, qui est un moine dans du Moatos, où j'ai vécu aussi grâce à Dieu un certain temps, Et Jacques Alamans disait, dans une phrase un peu compliquée à comprendre après, mais après vous verrez qu'elle est, elle est magnifique. Dieu est incognoscible dans son essence, mais se révèle par ses énergies incréées. Dieu se révèle par ses énergies incréées par un même genre. Donc Dieu est inconnaissable. Il est au-delà de tout nom, de tout nombre, de toute image, de toute forme. Il est au-delà de tout. Mais il se révèle par analogie, par ses énergies incréées. Quelles sont les énergies incréées de Dieu? Eh bien, en retournant dans l'évangile du jour, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est la pureté, c'est la vie, c'est la joie, c'est la paix, etc. Donc, nous, quand on travaille en tant que moine, et chacun est appelé à être moine, puisque le moine est un laïc, on n'est pas religieux, le prêtre est ordonné, mais le moine est un laïc, et chacun a pour vocation d'avoir cette aspiration monastique de tirer vers l'un, vers l'unité. Donc, Dieu parle par analogie. Donc, ça veut dire que moi, alors, j'accomplis un travail. Par exemple, quand vous chantez, quand vous écrivez une icône, ou quand je fais un repas à la cuisine, ou quand je jardine dans le jardin, etc., quand je fais n'importe quel acte, eh bien, j'essaie de poser dans chacun de mes actes les noms de Dieu. La paix, la joie, l'amour, la beauté, la simplicité. Et vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, je peux le faire. Donc, on peut comprendre que Edward Palamas, qui parle à des moines, il va dire, quoi que vous fassiez, il n'y a pas de hiérarchie en Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie. Mais quoi que vous fassiez, dans le réceptacle de la création, que ce soit une icône, que ce soit un chant, que ce soit un plat cuisinier, que ce soit une architecture, que ce soit une broderie, enfin qu'importe, faire la liste de tout sur l'affaire, eh bien, vous le faites en étant imprégné par les noms de Dieu, la paix, la joie et l'amour. Et vous verrez à la fin dans Saint Paul, alors là c'est terrible, je ne vous dis pas, c'est pour ça qu'il fallait un temps très long pour expliquer, pas pour expliquer, moi je ne peux pas l'expliquer, mais pour essayer de témoigner de tout ce mystère de l'esprit. Donc on voit que le père Séraphim est parti de l'esprit dans la matière, parce qu'il parlait des philosophes, mais que l'Éloi Palamas parlait du tout autre, c'est-à-dire est nihilo de Dieu, et il s'incarnait dans nos actes, et sans notion de hiérarchie. Donc il n'y a pas de hiérarchie en Dieu, tout acte peut rendre théophore, peut nous rendre porteur de la présence. À nous, bien sûr, et là je vais en profiter, bien sûr je ne vais pas le caser, à nous bien sûr d'être transparents à la présence. La couleur de Dieu c'est la transparence. D'où la confession, d'où le jeûne. J'attache énormément d'importance. Nous, c'est notre force, on va peut le dire, et Sérénie aussi, c'est de se faire vérifier dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on fait. Et le Père dit presque toujours oui, il n'y a pas de raison. Je veux dire, on ne fait rien de scandaleux. Et mais on demande toujours la bénédiction, et on se fait confesser. La confession et la révélation des pensées sont deux choses différentes. Et je vous en supplie, ayez bien un bon confesseur qui vous corresponde, et un Père spirituel un peu sévère, pas trop quand même. Parce que sinon, il va blesser votre cœur, vous deviendrez muet, ou paralysé, ou aveugle, parce que vous n'oserez plus rien faire, parce que vous serez tétanisé par cette violence. Il faut une infinie douceur, comme font un artiste, comme font tous les êtres, quand ils l'accomplissent, quand ils travaillent dans l'âme. Alors, il y a toujours, un jour, j'étais allé me confesser avec le père Séraphim, et un évêque qui rend visite au monastère, et le père Séraphim dit au moine qui est venu le prévenir, que l'évêque attende un peu, là, je soigne une âme. Il n'y avait rien de plus important pour lui. L'évêque, c'est très important, attention, pour vous, pas dire encore, j'ai encore dit des trucs, des machins, non, j'ai pas dit ça, hein, parce qu'il faut pas non plus être exagéré. Donc il faut bien sentir que donc votre foi vous a sauvé, et que cette foi, bien sûr, elle se situe dans l'esprit, elle est un don de Dieu, mais elle a besoin du consentement. Et quand je parle de confession, très souvent les personnes se rendent compte, lorsqu'elles sont un petit peu objectives par rapport à elles-mêmes, faisant une distance, c'est d'entendre toujours dans le même schéma, toujours dans les mêmes péchés, dans les mêmes divisions. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte, ils ont conscience de leur faute, mais qu'il n'y a pas le repentir, il n'y a pas la conversion. Vous comprenez? Donc il faut cette globalité de tout l'être pour avoir le pardon. Donc il faut bien, c'est Dieu qui pardonne, bien sûr, mais pour que ce pardon vous atteigne, il faut une conversion dans des larmes. Et c'est pour ça que tous les offices de Pâques sont sublimes, je veux dire, c'est inimaginable. Bien sûr, on crève de fatigue, on n'en peut plus, on est au bord de l'épuisement, mais il y a une telle nourriture pour l'âme qu'on humilie son corps pour avoir faim de Dieu. On a inversé les choses, comme là si on jeûne, vous savez, vous n'êtes pas mort de faim, vous avez un pistou, je veux dire zut. Hein. Donc on meurt, on fait un carême, mais il n'empêche quand même, c'est pour avoir faim de Dieu, pour avoir un désir de Dieu. Et vous allez voir que Saint Paul va beaucoup plus loin, alors là, bon, là je vais lire, parce que sinon je vais me faire enlever. Donc c'est l'amour, donc on traduit en français par charité, mais c'est vrai que charité est trop liée à l'aumône, et en français il n'y a qu'un seul mot pour l'amour. Alors, en grec, il y a quatre mots. Il y a philès pour le corps, eros pour l'âme, agapé pour l'esprit, et porneia pour la caricature de l'esprit. Et les juifs en ont sept. Parce que nous, il y a quand même un petit problème dans notre tradition, qui qui est un problème, parce que certains mystiques n'ont pas, quand je parle au père Boris, il dit non, là, vraiment, ça existe aussi, c'est qu'il y a, eux, ils ont sept mots pour l'amour. Il y a ces liens intermédiaires, si vous voulez, il y a l'instruction, il y a la morale, et il y a l'imagination. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte que nous, on est le corps, l'âme et l'esprit, comme trois parties différentes et opposées. En définitive, il faut des liens qui unissent tout cela, et là aussi, il y a des mots pour l'amour, et l'amour du corps, l'amour de l'âme et l'amour de l'esprit n'est pas le même, bien sûr. Donc, il ose dire, c'est pas moi qui le dis, hein, donc ne m'accusez pas, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retente. » Donc, je vais avoir tous les discours du monde, tous les plus beaux discours, il n'a rien à faire. C'est pour ça que la gnose est toujours un peu dangereuse, c'est une philosophie religieuse. C'est pour ça que l'Église a raison, bien sûr, elle n'a pas les mots assez, comment vous dire, il faut des saints, pour, des martyrs pour arriver à le dire, mais c'est important. Donc ce n'est pas le mot qui va nous convertir, ça je suis bien d'accord, bien sûr que le mot est porteur de la présence, je ne le dirai pas comme le l'icône est porteur de la présence, comme le saint est porteur de la présence, mais je ne suis pas l'idolâtre de l'image ou de l'intellectualisme. Si j'avais le don de prophétie, la science de tous les mystères, on entend tous les mystères, la connaissance, quand j'aurais même la foi, je la transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est-à-dire zut. Quand je distribuais tous mes biens pour les pauvres, si bien je donnais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc là, vous comprenez bien quand même que c'est bien dans l'esprit, c'est bien dans ces énergies infectes, ça s'appelle par analogie, et le Christ ne parle que par analogie, il parle que en parabole, il ne parle qu'en paradoxe. Bienheureux les pauvres, bienheureux les ceux qui ont faim, bienheureux ceux qui ont soif. Il n'emploie pas le langage de l'auteur de la loi, pas du tout. Il ne parle qu'en parabole, qu'en analogie, qu'en langage paradoxal. Ce langage qui englobe le ciel et la terre. C'est un langage de plénitude, c'est des discussions avec le père Boris sans arrêt, la plénitude du mot. Quand le Amin jaillit de notre être, c'est tout notre être qui tressaille devant Dieu, pas devant un public, c'est pas c'est tout mon être qui explose, on peut dire. C'est une explosion nucléaire. Donc l'amour, je vais presque sauter parce que c'est. L'amour supporte tout, l'amour est patient, il croit tout, il espère tout, il ne s'irrite point, il ne se soupçonne pas le mal, en fait, etc. Ce ne sont que des dons de Dieu. Je veux dire que dans ces moments-là, il faut avoir profondément d'humilité, dans de demander à Dieu, cette fameuse phrase qui est à l'essor, Gospel Divinum, Seigneur, aie pitié, parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, excusez-moi, je ne suis qu'une coquille vide. Sans toi, j'ai besoin de ta présence, parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme prétentieux, égoïste, central, etc., ambitieux, tout ce que je veux. Mais j'ai besoin, et cela, j'ai besoin d'une humilité. L'humilité, vous n'allez pas dire d'être rien du tout. Ça veut dire parce que j'ai ce désir en moi, cette énergie en moi, cet enthousiasme en moi, et si il n'y a que moi qui agis, eh bien, je ne vais faire qu'un monastère. Je dis souvent au frère Joseph, on fait un monastère, on s'en moque, faisons-nous une maison au ciel. Quand on prie à l'église, on prie le Christ. On n'est pas là en train de faire un spectacle. On prie le Christ. Et c'est pour ça que c'est important d'inviter, quand on n'est pas nombreux, d'inviter les anges à assister à la liturgie. Alors là, ce qu'il dit, je ne vous dis pas, c'est tout. L'amour ne périra jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, vous vous rendez compte. La connaissance disparaîtra. Vous avez fait toute la liste des choses, tout ça est éphémère. Tout ça est éphémère. Et il termine, là c'est le sommet, donc on arrive dans l'évangile d'aujourd'hui. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc quand le Christ se dit « ta foi t'a sauvé », ça veut dire que celui qui est enraciné dans le Christ, enraciné dans la tradition, il va pousser ce cri de ce Kyrie eleison, cette amine, cette alléluia, va pousser un cri vers Dieu, et Dieu, bien sûr, va le satisfaire. Alors je vais juste un peu plus loin, mais je ne vais pas te remonter parce que je rentrerai à Pâques, mais il va le satisfaire, et c'est pas ce que je vais dire, mais c'est écrit dans le Gatossé de Fautissé pour la prière du cœur, c'est-à-dire qu'il va vous envoyer sa grâce, en vous envoyant aussi une épreuve pour vérifier si votre grâce est authentique. Donc ne soyez jamais peur de la cédille, de l'ennui. Ça fait partie du chemin. Vous êtes habité par la grâce et Dieu s'efface, même sur la croix. Élie, la Sabbatani, pourquoi t'effaces-tu? Donc chaque fois que Dieu envoie une grâce, il se retire la kénose, il se retire le sabbat, comme ça que vous voulez, il se retire, parce que Dieu n'est pas sorti, voilà, c'est moi Dieu. Dieu s'est retiré en lui-même, il se retire pour vous laisser libre à accomplir le chemin de la conversion de la métaphysique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, l'amour, qu'est-ce que c'est? Donc, la foi, l'espérance et la charité, dans l'antique des antiques, je ne vous dis pas. Aujourd'hui, je parle de la Bible, c'est dogmatique, dogmatique, dogmatique. Donc, dans l'antique des antiques, la foi est aussi forte que la mort, l'amour est plus fort que la mort, donc il faut bien savoir que l'amour c'est la grandeur de Dieu, n'existe que par l'autre. L'amour solitaire n'existe pas. L'amour n'existe que par l'autre. Et 1 plus 1 ne fait pas 2. 1 plus 1 fait 1. Donc il existe quelque chose en l'homme. Quand vous chantez 100 choristes, il y a un seul souffle. Et en plus, vous chantez en polyphonie, donc c'est extraordinaire. Un seul souffle, parce que vous êtes tous tournés vers le Christ. C'est-à-dire que moi, je ne vous tourne pas le dos, je suis tourné vers le Christ. Tout le monde est tourné vers le Christ. Je ne vous ai pas tourné vers le prêtre, mais vous êtes tourné vers le Christ, et moi aussi. C'est le Christ qui préside la liturgie, ce n'est pas le prêtre ni l'évêque. C'est bien le Christ. Et donc, l'amour n'existe pas par l'autre. L'amour se réinvente à chaque instant. Il ne se répète jamais. Il ne se répète jamais. Il se vit dans l'instant. Il se vit dans le partage. Il se vit dans le don de soi. Pas le don de l'avoir. Dans notre identité, c'est écrit, si tu veux acheter l'amour, n'a que du mépris. L'amour est un don. Donc, là, vous êtes venus faire un stage. Vous avez tous donné, tous, même au-delà de vos forces, parce que vous avez donné tout ce que vous pouvez. Mais ne perdez pas le fruit de cela. Que votre chant soit porteur et théophore, donc porteur de Dieu, que vous soyez porteur de la présence, que votre souffle soit habité, que vous allez chanter le chérubicode, nous tous qui dans ce mystère représentons les chérubins, enfin, je ne vous dis pas, moi le Père Séraphim, quand il chante ça, il pleure. Et toute la communauté pleure parce qu'on sent charnellement la présence. C'est physique, on n'est pas dans le spectacle, c'est physique. Le mystère, c'est ici, maintenant, aujourd'hui. Et là, je vous remercie, vous avez chanté dans un monastère, paisiblement. Je comprends bien que dans une cathédrale, il faut clamer, dans une église, il faut avoir une autre façon. Mais ici, vous avez écouté le lieu, parce que lui aussi, le lieu est une matrice qui va accueillir la présence. Voilà, excusez-moi, j'ai fait mon petit laïus, je l'ai fait vendredi. Et ça vous permet, si vous voulez, de comprendre toute notre vie de moine et de se rendre compte que tout ce que l'on fait, on le fait dans la prière. Sinon, notre acte est inutile.